seule idée en tête, avec une seule idée en tête. Je bin von Kapisus à Fleben, ein Gestalt, à Fleben, ein Gestalt.
Saïda, j'habite à Lille depuis ma naissance, 42 ans.
Et du coup, t'as l'impression qu'ils changent la ville, l'architecture de la ville pour accueillir une certaine population.
Ouais, ça vient tout doucement. Avant, les quartiers comme Lille Sud et Oisem, c'était des quartiers populaires, mais des quartiers d'intégration, des quartiers où on accueillait beaucoup de population, où il y avait des HLM, parce que maintenant, c'est plus HLM, c'est LMH. C'est Lille Métropole Habitat. À l'heure actuelle, c'est le Lille Sud.
Ils se concentrent là-bas.
Oh ouais. Et vous avez vu le centre-ville là, qu'ils veulent faire à l'île sud, là, en face du commissariat ?
Non. En face du commissariat,
bah, c'est un deuxième Euralille qu'ils sont en train de construire là. C'est ouvert pour 2019.
Okay.
C'est en plein travaux là.
Okay.
Ils vont nous claquer des magasins. Ils vont mettre tapis tous les petits commerces juste à côté. Mais alors là, ils sont en train de pleurer les pauvres.
Il y a plus de 10 ans, la mairie de Lille et la préfecture décidaient de construire l'un des plus importants commissariats de France entre Lille et sa banlieue. Le Comico de Lille Sud impose une architecture aussi violente que ses agents. Aujourd'hui, de l'autre côté du pont du périphérique, c'est un nouveau bâtiment qui s'élève, le centre commercial Lillenium. Ses 37 000 mètres carrés de surface de vente, sa centaine de boutiques, ses restos, son hôtel, ses bureaux.
On a appris il n'y a pas longtemps, hein, Lulu, on a appris il n'y a pas longtemps que même les bières, elles vont augmenter et tout ça. C'est nul.
Et qu'en fait, toi, tu te dirais, il faudrait peut-être...
Ah oui, des choses pour la population, pour les enfants, pour les petits, les moyens, les plus grands, les jeunes adultes, pour tout le monde, il faudrait des choses. Que ce soit un terrain de basket, un terrain de foot ou un espace, genre une maison de quartier... où on peut se ressourcer, se rencontrer, sans moyens énormes. Mais le problème, c'est que eux, ces maisons de quartier, comme ces autres centres qui se battent justement pour la vie des quartiers de leur ville, se battent pour avoir des fonds. Du coup,
c'est qui donne les fonds,
c'est la mairie tout le temps.
Oui.
Donc on arrive toujours au même problème. Problème de la mairie, de l'État, et c'est pour ça que les gilets jaunes sont là. Parce qu'ils en ont plus que marre, parce qu'on est tous pareils. Ouais, bonjour Gito.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Sensibilise les gens sur le respect de la propreté de la ville et pour que le cadre de vie justement s'améliore, parce qu'ils construisent de nouvelles infrastructures, c'est bien de les respecter, et aussi là pour le déneigement, la viabilité hivernale et sur un peu l'écologie, le tri sélectif, tout ça.
Et les gens, ils vous accueillent bien?
Ouais, 90%.
Après on prend des bains aussi, mais bon.
Ça arrive.
C'est des travaux, du coup l'île ça change. C'est plus une ville, une vieille ville quoi. Ça devient.
Ça se dynamise. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de choses qui se font pour que tout le monde reste en fait.
Ok. Toi tu vois ça comme ça, t'as l'impression que la volonté c'est quand même que tout le monde puisse rester au final.
Quoi. Que ça s'améliore, enfin ils évoluent, parce qu'avant c'était plan-plan on va dire. Et là, ça évolue, on peut être à côté, on n'est pas obligé de partir à Paris pour voir des concerts. Il y a Rihanna, Bruno Mars qui sont venus, alors qu'avant, il fallait tout le temps partir à Paris, donc ça bouge. Ils arrivent à attirer de nouvelles personnes, de nouvelles entreprises, et du coup, c'est bien.
Arrivant d'un port breton à 1000 km de là, en écumant les comptoirs et les trottoirs pendant une semaine, on a écouté l'île changer à travers la voix des personnes qui l'occupent.
Après 1h30 de balade sur le périph', on s'est retrouvé devant l'APU, l'atelier populaire d'urbanisme du quartier de Fives, aux heures de permanence.
On s'est fait accueillir avec un verre d'eau fraîche et on a écouté Mohamed expliquer ses galères pour loger sa sœur en fauteuil.
Puis ce fut notre tour. On s'est présenté, tout le monde s'est assis autour de la table et on a fait tourner le micro.
Nous sommes 40 locataires d'une résidence. Et moi, ce qui m'a interpellée personnellement à venir ici à l'association, c'est un courrier de Madame de Brabander stipulant que la loi du 30 mai 2016 impose l'individualisation, des chauffages collectifs, de passer du collectif à l'individualisation. C'est une résidence de 1962. Nous avons des super chauffages en fonte et juste à côté, on a un trou avec une grille. On va rester 2 jours sans chauffage, ils vont même pas s'excuser, ils vont dire que c'est la faute de Dalkia, l'entreprise. Et ce qui se passe également chez LMH, c'est, chez tous les bailleurs sociaux visiblement, c'est qu'il y a un big turnover. Les responsables d'agence font 6 mois, il y en a un autre, ils dénoncent une équipe de bras cassés, enfin je veux dire, c'est sans cesse un turnover de personnel. Donc les dossiers en cours, ils sont à recommencer et c'est total épuisement quoi. C'est ce qui m'a fait venir ici, parce qu'on demande de responsabiliser les locataires. Alors, qui sont les responsables? Et les locataires, ils se sont rétractés un peu. Alors, on ne sait pas ce qu'ils leur disent, LMH, quoi. Mais il y a une psychose qui s'est montée, quoi.
C'est-à-dire une psychose?
Ben, de les 35 signatures, déjà, il y en a beaucoup moins. Sur la liste du collectif Saint-Just, je pense qu'il y a 18. Mais les gens, je ne sais pas, ils ont peur et je ne sais pas.
On leur a fait peur peut-être.
Ouais, on leur a fait peur, ça c'est sûr.
Ils ont reçu des lettres individuelles.
Oui,
des...
parce que Sandra est venue chez moi, elle m'a dit « Oh Linda, j'ai appelé Monsieur Beauchard, on a reçu... » Il contrecarre en fait, nous avions fait un petit questionnaire sur le logement, quoi, une petite enquête locative. Et bizarrement, moi je ne l'ai pas reçu. Hein. Le manager technique a contrecarré et a dit « Oui, cela, ceci, cela... » Enfin nous, on avait fait en sorte que d'informer les locataires sur les droits... Et voilà quoi, enfin, c'était le but initial, d'informer les locataires sur les droits au logement. Moi personnellement, ça m'est égal. Je sais que j'ai les moyens de prendre mes clés, clac, clic, cloc, et déménager, mais pour certains locataires qui sont là depuis 26 ans et qui ont vécu toute leur vie et travaillé toute leur vie très dur, et pour finir dans des conditions comme ça, je suis très sensible. Quoi. C'était les vœux du maire vendredi soir et je lui ai fait part de mes motivations.
Ma compagne a un appartement au Vieux-Lille.
Et le quartier, il change aussi ?
Ça n'a rien à voir avec les quartiers dont on vient de parler, là. Mmh. Là-bas, c'est plutôt... Ouais, c'est peut-être un petit peu bobo, mais c'est tranquille. Il y a plusieurs bars, vous parliez de bars. Il y a beaucoup de commerces, de petits commerces, et c'est très bien. C'est accessible au niveau de l'autoroute. Il y a le métro pas très loin, il y a des lignes de bus qui desservent le quartier. Après, ouais, ça dépend de ce que vous recherchez.
Et vous avez des problèmes de logement aussi ?
Ouais, après, trop de problèmes. L'humidité, des champignons, tout. La porte, elle a gonflé l'humidité. Sans passer les HLM, elle n'a rien fait. Il n'y a rien à faute. Ma porte, j'ai fermé avec les rideaux. Donc, voilà, grâce à Linda qui m'a ramené ici, je vais faire mes démarches. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Voilà.
Si jamais ils détruisent votre maison, vous faites quoi ?
Je vais rester sur la route. Je vais faire stop.
Comme moi, avec Linda.
Ouais. Parce qu'il n'y a pas de réseau qui ne donne pas de logement.
Voilà. Parce que la mairie, elle a dit qu'elle allait détruire, enfin que en tout cas,
ouais,
vous ne pouviez
plus
l'habiter.
Ouais.
Mais elle vous a fait des propositions de logement ou pas ?
Pour l'instant, non.
L'expulsion est d'abord l'expression d'un rapport de force entre expulseur et expulsé. Le droit, s'il peut permettre de se défendre dans certains cas, est aussi la source dans laquelle puise l'État ou les propriétaires bailleurs pour justifier le recours à l'expulsion.
Il ne faut donc pas hésiter parfois à quitter le terrain du droit pour trouver d'autres leviers qui permettront de rééquilibrer ce rapport de force, voire de le renverser. D'autres outils sont également mobilisables par les personnes expulsées, en puisant dans d'autres sources, l'entraide et le soutien, matériel ou moral, et l'action collective.
extrait du guide pratique d'autodéfense et d'organisation collective à destination de toutes les personnes menacées d'expulsion de leur logement et leur soutien, quelle que soit leur manière d'habiter. Réalisé par le collectif anti-expulsion de Lille.
J'avais entendu parler de Pile, permis de démolir.
C'est un film en fait qui a été fait par l'un des bénévoles sur le quartier du Pile à Roubaix.
C'est un des quartiers les plus stigmatisés de Roubaix, avec énormément de logements sociaux et de logements privés insalubres. Et il y a un grand projet de démolition dans le cadre de l'ANRU, en fait, du grand programme de rénovation urbaine qui arrive à son deuxième volet, là, qui existe depuis le début des années 2000. Et dans la métropole, les pouvoirs publics se sont débrouillés pour que, alors que c'était un programme de démolition prévu au départ pour des grands ensembles, type cité, vraiment grande tour, pour que ce soit applicable sur les petites maisons. Parce que dans le Nord, il y a énormément de logements sociaux qui est aussi, comme la maison de Baïa, en fait, qui est des maisons de plein pied, et qui ne rentraient pas dans les critères initiaux. Et donc, ils se sont débrouillés pour qu'il y ait un programme de rénovation de l'habitat ancien et dégradé, et en parallèle, de démolition aussi de cet habitat ancien. Donc, c'est dans ce cadre-là que le quartier du Pile est rentré dans ce programme-là. Et comme tous les programmes de l'ANRU, c'est quelque chose d'hyper violent, de conçu d'en haut, sans les habitants, avec une part de démolition énormément importante. C'est les fonds que l'Agence nationale de rénovation urbaine donne sont conditionnés au fait qu'il y ait énormément de démolitions prévues. Donc c'est plein de gens qui vivaient dans des conditions compliquées et qui auraient voulu que leur quartier soit réhabilité et rénové, mais qui voulaient tous y rester, qu'on oblige de déguerpir du jour au lendemain avec des tas de démolitions, c'est super violent. Et là, il y a eu une très belle mobilisation pendant plusieurs années des habitants qui se sont vraiment organisés très régulièrement avec des réunions toutes les semaines.
Toutes les semaines, ouais.
Ils étaient vraiment très nombreux à se bouger pour faire parler de ça. Ils ont réussi à choper des financements par une voie détournée de la part de l'État, mais d'autres guichets que l'ANRU, pour s'organiser et porter un contre-discours. Et ce film relate cette lutte-là, quoi.
C'est ce que montre du coup le film Pile a permis à démolir, c'est que on fait tout pour en fait taire cette contestation. Parce qu'on fait les choses bien, regardez, on rénove les quartiers, hein, salut. On est une asso quand même, qu'on se le dise, à l'APU, composée d'experts qui ont travaillé sur des quartiers en rénovation. Et du coup, on pourra avoir une vision ultra théorique et assez documentée de, par exemple, du quartier de Fives, celui qu'on connaît le plus. Il y avait beaucoup de commerce. Là où vous voyez les artères du métro, c'était que du commerce. Et le métro a tué, en fait, cette vie de commerce. Et en même temps, le métro a été construit pour rendre plus rapide l'accessibilité pour le quartier, pour arriver à Villeneuve-d'Ascq aussi plus rapidement, faire le lien entre Lille et Villeneuve-d'Ascq. Lille, sa métropole en général, c'est riche en lutte urbaine et en transformation. Quand on a été à M, qui est une ville au sud de Roubaix, sur la métropole, Henri II va tomber. Ça fait 40 ans qu'ils habitent dans leur cité de transit. C'était pas censé y habiter soit longtemps, ça que c'est ça qui a précisé. Ils y ont vécu 40 ans et au bout de 40 ans, le bailleur il dit non, on va rénover maintenant, mais ce sera pas pour vous. Et ils vont dégager. Il y a des bénévoles de Stasso qui ont essayé de proposer un autre plan pour garder les habitants actuels dans le même quartier. Non, ça n'a pas marché parce que l'ANRU, faut détruire. La semaine dernière, on avait été les voir et ils disaient, vous voyez là, au bout de la rue, il y a les briques blanches et nous, on est les briques rouges. L'objectif, c'est que tout devienne briques blanches. Donc, du coup, là, les bourges d'en face, quoi, que nous, on doit se transformer. Nous, on va reculer d'ailleurs et on va retourner aussi avec les briques rouges et on va s'éloigner un petit peu après.
Association qui a été fondée fin 2014 sur le modèle d'autres associations du même type, les APU qui avaient déjà dans l'île. Historiquement, ça fait référence à un mode d'organisation d'habitants qui est né à Roubaix dans les années toute fin des années 60, début des années 70, dans le quartier sur lequel il y a beaucoup d'écrits, qui est le quartier de l'Almagar dans le nord de Roubaix, qui était promis à démolition. À l'époque aussi, il y avait des programmes de rénovation urbaine portés par l'État qui démolissaient sans ménagement. Et là, non seulement les habitants ont réussi à ce que leur quartier ne soit pas démoli, mais pareil, ils ont fait un contre-projet qui a été la base de la rénovation du quartier. Et c'est resté une organisation de locataires mythique, parce qu'une des premières, et qui a vraiment fait du droit au logement un truc central, quoi. Et donc ça a été repris après par d'autres APU, dans le Vieux-Lille d'abord, je pense au début des années 80.
79, on va fêter les 40 ans.
Ah oui, c'est ça. On va fêter leurs 40 ans au printemps. Là. C'était le quartier qui connaissait les évolutions les plus radicales à ce moment-là, en fait. Le Vieux-Lille, dans les années 70, c'était vraiment le quartier mal famé, quoi. Personne ne voulait aller vivre là-bas et tout. Et il y a vraiment eu un moment où les pouvoirs publics ont dit « on rénove petit à petit, on encourage les gens à aller y investir ». Et ça a eu comme conséquence que plein de gens qui vivaient là-bas ont dû en partir et que les loyers ont complètement explosé, quoi. Et du coup, c'est un moment où l'APU Vieux-Lille faisait ce travail-là, donc d'accompagnement des familles et des locataires en difficulté, et d'organisation collective. C'est-à-dire que c'est un accompagnement individuel pour tout ce qui est problème d'insalubrité, mais aussi problème d'expulsion. Tous les gens qui ont des difficultés à payer leur loyer, qui sont accompagnés, on met en place des plans d'apurement donc pour régler leurs dettes. On les informe sur le temps qu'ils ont devant eux. Souvent, les gens, quand ils ont des difficultés, qui reçoivent les premiers avis de commandement de payer, etc., par la poste, ils se disent « Ah, je vais être expulsé demain ». Souvent, c'est ce que leur dit leur propriétaire aussi. Et nous, on remet un peu de vérité là-dedans, en leur disant qu'ils ont du temps, qu'ils ont le droit de rester dans leur logement encore, et que si on met en place un système de remboursement de leurs dettes, en fait, ils vont très probablement pouvoir rester. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils habitent dans un logement insalubre. Donc, non seulement ils sont pas prêts d'être réellement expulsés de leur logement, mais en plus on va obliger le propriétaire à faire des travaux et à les dédommager pour les avoir fait vivre dans ces conditions. On inverse tout un rapport de force juste en informant les gens sur leurs droits. Parce qu'il y a des droits qui protègent les locataires, et le principal problème c'est que les locataires sont pas au courant souvent. Et que dans le rapport de force défavorable de leur propriétaire qui leur met la pression, qui leur dit « je te mets dehors » et ils savent la difficulté que c'est de trouver un logement, eh ben, ils se sentent hyper vulnérables, ils n'osent pas s'affirmer, et parfois il faut juste leur dire qu'ils ont le droit et qu'on leur ment, en l'occurrence leur propriétaire leur ment, pour leur redonner un peu de confiance et leur permettre de s'affirmer dans, dans une lutte qu'ils ont en fait plus de chances de gagner que ce qu'ils pourraient croire au départ. Quoi. Pour le contemporain d'action collective, bah c'est ce que Linda décrivait beaucoup, quoi. C'est ce qu'on fait aussi dans toutes les... En l'occurrence, ce que Linda fait, parce que c'est toi qui porte le plus ça, quoi. Dans les résidences HLM, où on pourrait pas monter un dossier et faire une procédure juridique par locataire, parce que les 40 locataires sont tous concernés de la même manière. Parce que le logement a été mal construit par un promoteur qui voulait le faire trop vite pour pas cher, et que le bailleur n'a pas été suffisamment regardant, ou parce que c'est un logement qui est super ancien, dans lequel le bailleur a refusé de faire aucun travaux en 20 ans, 30 ans, 40 ans d'existence, et où au même moment, des dizaines de personnes rencontrent les mêmes problèmes d'infiltration, d'humidité dans le logement, de problèmes d'isolation à avoir des charges astronomiques, enfin que des choses comme ça, où c'est plus tenable d'avoir des procédures juridiques individuelles, et là où c'est important de faire se rencontrer les gens et leur donner le courage de se mobiliser collectivement pour faire un rapport de force là encore, mais tous ensemble, contre le bailleur qui fait pas son travail et qui est dans l'illégalité en logeant les gens. Et où en fait on est souvent dans un rapport de force plus compliqué parce que justement le bailleur c'est public. Et que les rares instances publiques qui sont là pour dénoncer l'insalubrité, bah, elles veulent pas faire leur travail contre elles-mêmes, en tout cas contre des personnes auxquelles elles sont institutionnellement et politiquement liées. Et d'où l'importance de rendre ça visible, de faire venir les médias, de pas lâcher, de refaire des courriers, de faire des pétitions. Et c'est ce qui est le plus épuisant, je pense. Parce que c'est une montagne à déplacer, quoi. Et il faut garder les gens mobilisés parce qu'ils sont tous concernés, parce qu'ils sont tous dans les mêmes problèmes. Mais en fait, c'est très difficile d'entretenir une dynamique collective avec les gens pour qu'ils gardent l'espoir et qu'ils mettent leur petit grain de sel eux aussi pour pas que ce soit que les mêmes qui portent tout le temps.
On organise aussi d'autres événements à côté. On organiserait, genre là jeudi dernier, on a organisé une projection. L'année dernière, on a organisé un festival pendant une semaine avec plein de thématiques autour de la gentrification, de l'urbanisme. On a fait venir des gens, notamment d'autres gens qui avaient aussi fait un film dans un quartier de Dijon qui s'appelle Les Lentillères. Et du coup, on les avait fait venir ici pour qu'ils parlent de leur film. Donc c'était vraiment chaque soir une thématique, chaque soir un événement qui s'est clôturé par un gros week-end avec des concerts, avec tout ça. Et à côté de ça, on organise régulièrement aussi des balades urbaines pour faire découvrir le quartier aux gens, pour donner aussi la parole à d'autres habitants. Une cantine solidaire tous les lundis qui est ouverte à tout le monde. Enfin, l'idée aussi, c'était de faire aussi un peu d'autres choses que rester vraiment dans un cadre très formel et de faire des choses aussi un peu sympas avec les habitants. C'est vrai que Baya vienne à la cantine un jour.
Oui, Charles.
Donc,
C'est, enfin voilà, la cantine c'est tous les lundis, c'est un prix libre. Enfin, les gens peuvent venir aussi pour aider à cuisiner, ou alors ils peuvent venir que pour manger. On a une cuisine.
C'est dans ces locaux-là, du coup.
On a une cuisine là-bas et on a une cour en fait juste à côté, donc du coup tout se passe ici. On fait tout ici.
Assez mythique qu'on a détruit. Parce qu'à Lille, on construisait pas en haut, on construisait en long. Après, on a commencé à construire en haut, et après, bah, quand en haut ça a été détruit, je pense à la Cité des Biscottes, qui est une cité mythique, et à la lisière de l'île sud, qui s'est fait détruire à la fin des années 90.
Biscottes, c'est date de quand ?
Oh, ah, il y a peut-être deux tours des Biscottes, et une qui a été
détruite. Il y en a une qui a été très bonheur, et la deuxième.
Parce qu'il y en a une sous le mandat Mauroy. En fait, c'est en lisant un bouquin où t'as Mauroy qui se vante en fait d'avoir détruit Biscotte.
Oui, bah, c'est la première tour. La
et
il y a eu Biscotte, il y en a eu deux.
Et Martine, elle a été élue en 2001.
Ouais.
Donc, parce qu'en fait, bah, les gens du Vieux-Lille, ils ont été relogés ensuite après dans ces tours-là. Et après, quand les gens anciennement du Vieux-Lille, enfin, à l'époque où le Vieux-Lille, c'était encore un coupe-gorge, ils ont été relogés dans ces cités. Après, on a trouvé plus pauvres qu'eux. Et après, on n'a pas... C'est pas occupé de ces cités, enfin de ces tours-là, et on les a redétruits derrière, et ça fait autant de... Le problème, c'est... Il y a la ville qui pose ses symboles, la tour de Ralil, qui est l'espèce de L, là, qu'on voit. Puis tout Ralil et le pataquès qu'il y a derrière, et Lille, nouvellement, c'est devenu une pub, en fait, enfin, parce qu'il y a une marque métropole lilloise, Hello Lille. C'est tout ça qu'on énonce, quoi. Et le problème aussi, dernier truc, c'est que bah, sous couverture en fait, de nettoyer la ville, finalement, on aseptise en fait, les conflits. Mais la façon d'aseptiser, elle est ultra violente, en fait. C'est-à-dire qu'on va rénover pour dire qu'on va régler les problèmes, sauf qu'il y a des gens qui payent les frais quand même derrière. Et tout ça, on fait tout pour terre. Et en fait, c'est un peu ça, la logique de l'ANRU de façon générale. On va détruire pour mieux construire, sauf qu'on détruit pour mieux reconstruire. Mais on aseptise la violence que l'ANRU crée.
Tout le quartier ici de l'île sud, c'était des magasins et des cafés. Des magasins et des cafés.
On avait mais... cafés.
Voilà.
Il y avait des commerces, là, des commerces et 41 cafés.
Il y a longtemps déjà, là ?
Oui, il y a longtemps, 1963, 62 et tout ça, ça commence à gringoler tout doucement, tout doucement, tout doucement, il n'y a plus rien. Maintenant, si lui il va partir, c'est la misère. T'as carrément une grande rue comme ça, il n'y a pas de bureau tabac, il n'y a rien, il ne reste que Anita. Ici, c'est un quartier ouvrier. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne peut pas... Un boulevard de la mode, c'est chic, comme on dit. Hein, et il faut avoir beaucoup d'argent, il y a des stylistes, il y a des gens de la mode, il y a des défilés, il y a tout ce qu'il fallait. Mais moi, à mon avis, ici, je ne pense pas. Déjà, quand il gagne sa croûte, déjà, il est heureux.
Est-ce que les gens du quartier rentraient dans ces petites boutiques-là ?
Non, à mon avis, j'ai jamais vu personne. Hein. J'ai jamais vu personne, mais les gens, ils rentrent par curiosité, c'est pas pour acheter, pour voir. Mais c'est pas eux que les gens du quartier qui les ont fait partir, hein. Je ne pense pas, hein. Parce qu'il n'y a pas de clients.
Ces boutiques, elles sont fermées maintenant.
Ah, vous n'avez pas vu, tout est fermé.
L'Illénium. Ce centre commercial a failli ne pas voir le jour. Un énième délire mégalo dans un quartier populo. Les banques et les promoteurs sentent le fiasco venir et ne se sont pas pressés aux portes. Si bien que c'est de l'argent public, celui de l'ANRU et de la Caisse des dépôts, qui a finalement permis que le projet se fasse. Juste en face de l'Illénium s'étend le secteur Simons et ses petites maisons ouvrières qui ont déjà résisté aux volontés de transformation de la population du quartier par le projet du Faubourg des Modes. À la suite de l'île 2004, il visait à transformer l'artère commerçante de l'île Sud par l'implantation de jeunes créatifs de la mode. Cette fois, une partie des maisons doit être rasée et les habitantes-habitants, propriétaires-occupantes-occupants, doivent dégager.
C'est pas forcément un projet qui va faire du bien à tout le monde, quoi.
Oui, dans le quartier, oui, parce que la majorité des quartiers part faillite. Leclerc, c'est bon, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dans les petits magasins, on peut les avoir chez lui, par exemple. Mais pour les commerçants, c'est un petit peu difficile. Et en plus, ça embauche les jeunes ici. Soi-disant qu'ils disent comme quoi qu'ils commencent avec l'île sud, les jeunes de l'île sud.
Sacré d'emploi.
En fait, je pense que ça en détruit, mais...
C'est bizarre, quoi.
C'est des centres commerciaux, il y en a déjà pléthore, ça va faire péricliter les petits commerces, probablement une grande partie des alentours. Et ça va prendre de l'emploi à cet endroit-là qui sera supprimé ailleurs sur des emplois déqualifiés, pas hyper agréables, où les mêmes personnes pourraient se retrouver à bosser dans une petite boutique ou à la gérer. Et ça va faire augmenter les prix du quartier qui sont déjà en augmentation importante. C'est une évidence, ça. C'est le gros problème de la plupart des grands projets urbains, c'est que quand ils construisent du logement, ce dont les gens ont le plus besoin, bah en fait, ils font pire que mieux parce que le logement neuf est plus cher que le logement qui existe déjà. Donc ils contribuent, en prétendant régler le problème du manque de logement, à rendre le logement pas cher encore plus rare. Les logements sociaux qui sont construits sont pas du tout assez nombreux. Même eux, c'est sur des tranches de revenus qui sont souvent trop élevées pour les gens qui en ont vraiment besoin.
Moi, je me rappelle, il y a 50 ans en arrière, moi, je faisais mes commissions, on rentrait à un café, on allait manger un paquet de frites, il y avait de l'accordéon, et les gens, ils dansaient. Maintenant, c'est mort. Regardez, il reste le petit Pascal, le petit marin, le petit pompier et Anito. C'est tout ce qui reste, 41 cafés.
Mais c'est parce qu'ils ne pouvaient plus, parce qu'ils n'avaient pas assez de clients, peut-être.
C'était toujours plein.
Oh non, c'était plein ce temps-là.
Ben ça va. Mais écoutez, nous-mêmes, qui sommes les anciens du quartier, eh ben, ça m'arrive de me perdre dans le quartier, avec le Grand Sud, parce que dans le temps, il y avait le Sud, maintenant, il y a le Grand Sud.
Ah oui, le Grand Sud, le Petit Sud.
C'est pourquoi ? Parce qu'il y a des travaux ?
Tout a changé.
Ils ont beaucoup construit. Dans le temps, il n'y avait pas ça. C'était des vieux bâtiments. Il y avait des jardins. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Ils ont construit. Moi, la dernière fois, j'étais avec mon mari, on voit le cimetière. Mais ils ont rasé le cimetière. Il n'y a plus de cimetière. Mais là-bas, on s'est perdu. On s'est retrouvé Port d'Arras. Ben, j'ai dit, alors c'est.
Il y a le train qui passait là, derrière. Le petit train de la vingtaine et tout.
Tout ce que je peux raconter, ça n'a rien de pas. Un rêve.
Vous avez connu le vieux Lille ? Le vieux Lille était rien du tout. N'importe qui peut habiter là-bas. Du jour au lendemain, ils l'ont amélioré, ils ont rénové, il n'y a plus personne qui habite là-bas. Ils ont resté que les riches. L'île Sud, ça va être comme ça. Et croyez-moi, je vous le dis. L'île Sud, il va être comme ça, il n'y a plus personne. Tu n'arrives pas à payer, hop, va dans les beaux-lieux.
Chez moi, les changements que j'attendais, ce n'est pas moi qui vais en profiter. Peut-être une voisine, peut-être un voisin. Je reste heureux de leur sourire, de leur serrer la main. Moi, le quartier, je vais devoir le quitter. Il faut digérer. Ces chantiers, c'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes qui s'installent déjà. Des personnes qui travaillent, parce qu'il y a trop de chômeurs ici. Mais j'aurais préféré que ce soit le travail qui vienne à nous, pour que je reste aussi. Boutique de mode, salle de concert, jardin partagé, tram verte, tout ça n'était pas nécessaire pour nos mères et nos pères. Cette terre autrefois déclassée est devenue un terrain prisé qu'on reprise sur la misère d'hier. Comme si la culture populaire n'avait pas d'attachement pour les murs qui l'ont vu grandir, même si c'était en emprisonnant.
Ici la mer n'est plus, de Jan Paremski et Bonaventure Rosa aux éditions Les Étacs.
Journal local de critique sociale, numéro 54, printemps 2018. L'erreur est urbaine.